Bon, donc, bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui en rappelant un certain nombre d'idées qu'on avait traitées la semaine dernière. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait commencé avec des considérations plutôt larges, avec une réflexion sur des écrits à partir du début du XXe siècle, notamment en passant en revue un certain nombre d'idées, par exemple de Georg Simmel. Et puis leur utilisation ou des débats qui ont été développés par des médiévistes comme Aaron Gurevitch. Mais on a aussi vu donc un autre type de développement, d'ailleurs qui reste pour moi assez central, c'est-à-dire cette petite réflexion qui a été livrée par Marcel Mauss dans une conférence qu'il a donnée à Londres en 1938, portant sur comment en fait ce genre de documents qui parle d'un moi ou un égo-document, si vous voulez, en fait peut être traité d'une façon très large dans des cultures extrêmement diverses. Et d'ailleurs, Mauss avait pris le soin d'aller aussi loin que possible, donc en traitant les Indiens Pueblo ou les aborigènes de l'Australie, tout autant que l'Inde, la Chine, le monde de l'Empire romain ou les Grecs. Alors donc, depuis un certain temps, bien sûr, il y a un renouveau dans ce sujet aussi. J'ai traité brièvement la semaine dernière cet article qui est en guise d'introduction à une collection qui a été faite par l'historien allemand Winfried Schulze sur les ego-documents. Et donc, dans ce texte, il avait proposé de voir assez large, tout en prenant essentiellement des cas européens. Mais en fait, c'est possible d'élargir et de reprendre une discussion croisée, disons, du type de développement qu'on trouve chez Schulze et le type de développement qu'on trouve donc chez Mauss. Et si on regarde dans la bibliographie récente, je vous donne juste deux exemples. Par exemple, à gauche, vous avez ici Encyclopedia of Life Writing. C'est une espèce d'ouvrage de type général, de type encyclopédie, justement, fait par quelqu'un, une historienne féministe, Margaretha Jolly, mais qui se traite essentiellement dans son propre travail du monde contemporain, mais elle s'est quand même intéressée un peu dans le cadre de cet ouvrage collectif à des exemples qui poussent plus loin, malgré le fait que finalement, il faut dire que les exemples asiatiques sont relativement maigres dans l'encyclopédie. Et puis, par exemple, dans chaque pays ou dans chaque région, effectivement, maintenant, on a de plus en plus d'ouvrages, soit collectifs, soit individuels. Dans le cas indien, en fait, je vais traiter pas mal de l'Inde aujourd'hui, il y a eu, par exemple, cet ouvrage sorti d'un colloque organisé à la School of Oriental and African Studies de Londres et dirigé par deux de nos collègues, l'historien de l'époque coloniale David Arnold et le spécialiste de la littérature tamoule qui était Stuart Blackburn. Et donc, vous voyez cet ouvrage qui a pour titre Telling Lives in India, Raconter les vies en Inde, et où on commence effectivement avec l'époque moderne pour aller jusqu'à l'époque contemporaine, avec certains exemples d'ailleurs très très célèbres sur lesquels je vais revenir brièvement. Alors, donc vers la fin du cours de la semaine dernière, on avait passé à traiter un cas particulier, qui était un cas portugais, dont la littérature portugaise est restée célèbre. On dit que pour l'époque moderne, il y a probablement deux ou trois textes portugais qui sont connus vraiment en dehors du Portugal. Malheureusement, la littérature portugaise n'a pas forcément retenu l'attention même du monde intellectuel européen. Mais donc, tout le monde connaît les Lusiades de Camões. Et puis, les deux autres textes, il y a un texte religieux qui est Trabalhos de Jesus, du frère Tomé de Jesus, qui a été donc prisonnier au Maroc dans les années 1570-1580. Et ça, c'est un texte qui a été traduit maintes fois en anglais, en français, et ainsi de suite. Et finalement, on a ce texte-là, Pérégrination de Phénomène de Spinto, texte qui a été probablement rédigé à la fin des années 1560, début des années 1570. Mais à la mort de son auteur, reste donc confidentiel. On dit toujours, parce qu'on a le goût de la conspiration dans le monde portugais, donc on dit toujours que c'est parce qu'il disait tellement de... Il était tellement mauvaise langue et il y avait tellement de choses scandaleuses que c'était donc délibérément supprimé par certaines familles puissantes au Portugal. Mais en tout cas, c'est sorti, finalement, 30 ans après la mort de l'auteur, en 1614, et c'est devenu un best-seller, traduit en plusieurs langues, mais avec un statut toujours très débattu, parce qu'on n'a pas su si c'était de la fiction ou si c'était vraiment un récit donc ethnographique ou autobiographique. Il a gagné la réputation très vite, déjà au XVIIe siècle, d'être, comme on l'a dit maintes fois, le plus grand menteur du monde. Hein. Et on avait donc ces espèces de jeux de mots, ces blagues portant sur son propre nom, Phénomène de Spinto, qui donne donc on peut mentir et Mendes, c'est comme ces deux mots sont assez proches l'un de l'autre. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de débats autour de ça. Depuis un certain temps, on se rend compte qu'il y a tout de même des façons de contrôler son texte. Et ça, c'est parce qu'il y a d'autres documents en dehors de son texte, soit écrit par lui, soit écrit sur lui, et donc on peut en fait faire un jeu de va-et-vient entre son propre texte et ses autres documents. Et voilà donc un certain nombre de ces documents qui ont été même publiés de son vivant. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, il est passé brièvement par la Société de Jésus. Il a été jésuite pendant à peu près 2 ans. Il est sorti, comme c'est souvent le cas dans sa vie, d'une façon scandaleuse. Mais le temps qu'il était dans la société, il était donc parmi les gens qui ont écrit des lettres, qui ont été publiées dans ces espèces de pamphlets. Hein. Donc, vous voyez ici, à gauche, « Copia de unas cartas del padre Mestre Francisco », ça, c'est François Xavier. Hein. Et l'autre qui est padre Mestre Gaspard et autres padres de la Compagnie de Jésus. Et donc, on a ici une traduction en castillan du portugais. De la même façon, on a l'autre texte qui est publié à Coimbre en 1562. Et dans ce texte-là, on a justement des lettres, quelques lettres, pas beaucoup, de Fernando Mendes Pinto au parlant de lui. Par exemple, il y a une lettre même de François Xavier dans laquelle il parle de lui comme quelqu'un qui était un marchand très riche et qui a donné pas mal d'argent aux jésuites pour construire des églises, par exemple, au Japon. Et d'ailleurs, à part ces deux ou trois petits opuscules publiés, on a aussi, par exemple, quelques documents. Voilà une des lettres manuscrites de Fernando Mendes Pinto, dans lequel il parle d'un certain nombre de choses portant sur juste toujours ses rapports avec les jésuites. Et c'est intéressant de reprendre ces textes-là, comparer, parce que souvent, en fait, on retrouve textuellement des passages de ses lettres dans son récit. Donc, on voit qu'il a, en fait, puisé dans des choses qu'il avait écrites avant pour refaire ce texte, même s'il a... Il a bien sûr reconstruit l'ensemble, où d'ailleurs il y a aussi l'autre problème, c'est-à-dire il est fort possible qu'après sa mort, quelqu'un d'autre a retravaillé l'ensemble pour faire de ce texte quelque chose de plus lisible, plus aventureux, plus picaresque. En effet, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on a souvent dit, c'est-à-dire que vous voyez la coïncidence, la publication de Fernando Mendes Pinto n'est pas très loin de la publication de Quichotte. Donc, on peut parfois retrouver des échos entre les deux textes. On voit qu'il appartient plus ou moins au même type de monde. Et d'ailleurs, comme Cervantes, lui aussi, a été un participant dans l'Empire espagnol, notamment en Afrique du Nord, donc ça, c'est pas tout à fait improbable de faire une réflexion d'ensemble sur les deux. Alors, donc, pour faire maintenant un peu d'égo-histoire pour moi-même, comment est-ce que je suis venu à traiter ce sujet-là? En fait, ce n'était pas en passant par les Portugais, ça aurait pu être le cas. Mais en fait, mon propre intérêt pour ce sujet venait d'un point de vue totalement différent. Ça venait, en fait, des discussions que j'ai eues à partir des années 80 avec des spécialistes de l'Empire ottoman. Donc, on avait eu des colloques à l'époque d'histoire comparée entre l'Empire moghol, l'Empire ottoman et les autres empires asiatiques. Et dans ces discussions, j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer quelqu'un qui, à l'époque, était une espèce d'étoile montante dans le cadre de l'histoire ottomane, qui est Cemal Kafadar. Donc, qui a à l'époque publié un article qui fait date, qui a beaucoup marqué un certain nombre d'historiens de l'Empire ottoman. C'est l'article que vous trouvez ici à gauche, Self and Others, sur le journal d'un derviche à Istanbul dans le XVIIe siècle, et dans lequel il a traité l'ensemble de ce qu'il appelle first-person narratives, les narratifs en première personne. Ça pose un petit problème parce que souvent, ils ne sont pas en première personne. Ce sont des égo-documents, mais il y a un petit problème là. Mais de toute manière, il a donc fait dans cet article une espèce de vue d'ensemble de tous ces textes. Et en regardant son article, moi et un certain nombre d'autres personnes travaillant sur l'Inde à l'époque moderne, nous nous sommes dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait ce travail sur l'Inde? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais regardé, par exemple, ce qu'était l'ensemble de ce type de texte en Inde? Et surtout parce qu'en plus, on a quand même une richesse linguistique qui est beaucoup plus considérable en Inde que dans l'Empire ottoman. Lui, il a regardé effectivement que des textes en turc ottoman et en arabe. Tandis que si on était en Inde, on aurait pu, par exemple, regarder beaucoup d'autres possibilités, beaucoup d'autres langues. Alors, par la suite, Cemal Kafadar a publié deux choses où il a poussé cette réflexion. Le livre que vous voyez au milieu, dénommé Asiye Khatun, c'est une dame qui vivait au XVIIe siècle et qui avait donc, qui était une dame fort mystique. Elle avait des rêves et elle avait donc l'habitude de noter ses rêves et puis d'envoyer ses rêves à son maître soufi pour qu'il fasse interpréter ses rêves. Donc, ce sont ces rêves que vous voyez ici, les rouillets. Rouillets, c'est donc le mot persan qu'on trouve en turc ottoman. Donc, on peut dire khab ou roya, rouillet. Et donc, ce sont les lettres, les mektoub, des lettres qu'elle a écrites en racontant ses rêves. Donc, il fait une édition de ce texte qui est une espèce de document, donc un égo-document, portant sur cette dame du XVIIe siècle, qui est un document assez précieux. Puis, il a aussi publié cet autre recueil d'articles avec un titre un peu énigmatique. Ça se traduit comme quelque chose comme « Qui est là-bas quand nous sommes ici ?» C'est un peu la traduction de titre. Mais de toute façon, dans lequel il traite de pas mal de documents de ce type-là, écrits par des personnes très différentes, des janissaires, des derviches et aussi des marchands et ainsi de suite. Certains de ces documents sont d'ailleurs assez connus. Il y a même eu des traductions partielles pour un certain nombre en français, notamment dans la série de Sindbad d'Actes Sud. Là, vous voyez une partie du texte qui est probablement le texte de l'ego document ottoman le plus célèbre de tous. Et ça, c'est le Seyahatname, le récit de voyage, en fait, mais c'est beaucoup plus qu'un récit de voyage, de Evliya Çelebi, qui a vécu au XVIIe siècle, qui a fait donc des voyages à l'intérieur de l'Empire ottoman, mais puis aussi, par exemple, en Europe. Là encore, il y a toute une discussion possible sur le fait qu'il a probablement inventé un certain nombre de ses voyages. Il dit qu'il a été très loin en Europe occidentale, ce qui semble peu probable. Mais, par exemple, ses voyages dans les Balkans, ses voyages, par exemple, il a une belle description sur le Danube et en fait comment ça fonctionne, et aussi sur le Nil. Il est très fasciné par les rivières. Voilà, donc ça, c'est un texte. Si vous avez ici juste une partie traduite par Farouk Belici, qui est juste une partie portant sur un certain nombre de batailles. Et puis, vous aviez cet autre texte qui est aussi relativement connu, qui est le texte d'Osman Aga, qui est un récit de captivité. Donc, il a été, c'est un soldat qui a été donc prisonnier chez les Habsbourg de l'Europe centrale, et donc il a écrit. Il y a un certain nombre de textes de ce genre, mais celui de Osman Agha est probablement le plus connu. Donc, vous aviez ici ce genre de texte. Bien sûr, on est dans le monde ottoman, donc il ne s'agit pas de textes publiés. On n'a pas, sauf quelques exceptions très, très rares, on n'a pas de textes imprimés juste au XVIIIe siècle. Bien sûr, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, dans une collection beaucoup plus vaste. Je vais juste vous donner la petite réflexion de Kafadar sur ce texte qui a été le centre de son article. C'est le texte du journal de Derwish. C'est un texte qui s'appelle Sohbatname. C'est un texte très curieux, c'est vraiment la vie quotidienne. Donc, par exemple, il dit qu'un des éléments qui vient sans cesse, c'est comment il va chez souvent ses barbiers pour être rasé. Et le barbier ça s'appelle Velour, hein, parce qu'apparemment c'est un barbier très doué. On a ce genre de choses. C'est un texte qui fait 418 folios. Vous voyez tout de suite la question de la première personne. Il ne parle pas en utilisant la première personne grammaticale. Donc, en fait, il parle en troisième personne. C'est toujours ce fakir. Donc, cette humble personne, c'est plutôt ça. Et donc, de la même façon, il ne parle jamais de sa maison, il dit toujours ce lieu de souffrance. Et ainsi de suite. Mais finalement, on peut identifier qui il est. C'est quelqu'un qui s'appelle Sayyid Hassan. Donc, c'est un derviche qui est descendu d'une famille qui est donc très liée avec cet endroit-là. Là, vous voyez, c'est Ayyub Sultan. Ce qu'on dit que c'est l'endroit où était enterré un des compagnons de prophète, c'est-à-dire Ayyub Ansari. Mais en fait, on sait que c'est probablement une fiction, parce qu'il n'y a vraiment pas de preuve de ça dans les premiers siècles de l'islam. Et on a retrouvé, entre guillemets, les restes de son corps beaucoup plus tard, par le biais des rêves des gens et ainsi de suite. Mais de toute façon, il est lié avec c'est un endroit qui est vraiment au bout de la Corne d'Or à Istanbul. Et donc, lui, il est lié avec une famille qui a été parmi les gens qui géraient cette institution. Et il a aussi donc des liens avec des ordres soufis. C'est aussi quelqu'un qui, malgré tout cela, il ne faut pas se tromper, c'est un bon viveur et même une personne qui est un peu obsédée par la nourriture. Par exemple, il y a un incident que Kafadar remarque, c'est-à-dire quand sa femme meurt, et donc il parle des obsèques, et beaucoup plus que sa femme, il parle de halva. De combien de halva, des variétés il en avait à ses obsèques, etc. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même un point de vue un peu particulier quand il regarde le monde. Alors, donc, pour donner un cadre général à ce genre de texte, en fait, Kafadar a recouru à des textes plus connus. Donc, ce qu'il a fait, c'est une stratégie qu'on connaît, que quand on a besoin de publier une revue comme il a fait, il faut donc attirer le lecteur en mettant ce qui n'est pas familier par rapport à ce qui est beaucoup plus familier. Donc, en fait, ce qu'il a fait, effectivement, c'est de faire valoriser en quelque sorte ces textes ottomans en prenant comme point de départ et comme cadre de référence quelque chose qui est probablement un des textes les plus connus du genre. Et là, voilà, c'est ce texte-là. C'est le texte de Samuel Pepys, le grand, celui qui a tenu ce journal pendant 9 ans, 10 ans à Londres. C'est probablement dans le monde anglophone au moins. Bien sûr, il y a une traduction française, comme vous voyez ici. Mais dans le monde anglophone, pour l'époque moderne, je dirais que c'est probablement le journal le plus connu de tous. Donc, c'est un texte qui, qui dure à peu près 9 ans, 10 ans, ça s'arrête, bizarrement, parce qu'on sait que Pepys a vécu jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et c'était qui? Alors, Pepys était un homme politique. Il a donc survécu pendant plusieurs régimes. Là, on est, si vous voyez, dans les années 1670, on est juste après Cromwell. C'est la restauration de Charles II. Et c'est quelqu'un qui est assez bien vu à l'époque de Charles II. Il va donc grimper, finalement devenir haut fonctionnaire. Et donc, il va survivre Jacques II, il va survivre la Révolution glorieuse. Et à chaque fois, bon, il a trois séjours en prison. Donc, c'est aussi parfois un peu délicat d'être haut fonctionnaire à l'époque. Mais malgré ça, il va arriver quand même à faire un certain nombre de choses. Et ce journal est très particulier parce que, à la fois, c'est un journal politique, c'est un journal confidentiel qu'il n'a jamais voulu publier. En fait, ça a été publié plutôt au XIXe siècle dans une première version à partir d'un manuscrit qui se trouve à Oxford, si je ne me trompe pas. Et puis, en fait, l'édition complète a été faite dans les années 1970-80, en 10 volumes. Et dans ce journal, aussi, il raconte pas mal de choses. C'est écrit dans une espèce de code. Donc, en fait, il faut aussi déchiffrer le journal. Il y a des choses, par exemple, les rapports qu'il avait avec un certain nombre d'amis de sa femme et comment, en fait, il a été pris en flagrant délit par sa femme. Et donc, il y a aussi ces aspects un peu curieux et délicats de sa vie privée qui vont paraître dans ce texte-là. Mais il y a aussi des choses assez curieuses, c'est-à-dire il utilise des mots parfois codés, mais peu discrets. Par exemple, au lieu de parler de sa femme, il dit toujours « mujer hein, » en espagnol, mais dans le texte en anglais. Donc, il dit « my mujer hein, » et ainsi de suite. Donc, il a un certain nombre de ces mots pris de français de l'espagnol qu'il va utiliser au milieu de ce texte-là. Mais alors, comme c'est un texte qui est utilisé, qui est cité, c'est probablement parmi les textes les plus cités pour l'anglais du XVIIe siècle. Donc, toute personne qui travaille sur le théâtre en Angleterre, sur la vie politique, par exemple, sur la grande incendie de Londres. Donc, ça, c'est considéré comme un des grands témoignages sur ce genre d'événements public. Donc, c'est par rapport à ça que Cafadar a voulu en fait définir son corpus. Mais c'est intéressant de voir que depuis un certain temps, les spécialistes de l'Angleterre commencent à nous dire que la façon dont on a traité le texte de Pepys est très insatisfaisant. Donc, vous voyez, ça, c'est un article relativement récent. Ah, pardon, en fait, ça a été découvert à Cambridge et pas à Oxford. Il dit, ça c'est un article de Mark Dawson dans l'English Historical Review, dans lequel il dit, on cite ce texte, mais on n'a jamais pensé vraiment à des choses de base, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il a commencé à l'écrire? Pourquoi il a cessé de l'écrire? Quelle était la fonction de ce texte? Est-ce que c'était vraiment censé être un texte secret? Parce que si c'est un texte secret, par exemple, il dit un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas dire. Par exemple, il explique qui sont ces gens. Il explique, par exemple, un tel est venu me voir et alors donc, en trois lignes, qui est cette personne? Alors, si c'est quelque chose qui est tenu que pour lui, que pour sa famille, il n'aurait pas besoin d'expliquer qui est l'oncle Jacques qui est passé. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'ambiguïté et des problèmes sur l'intention, sur l'auditoire, etc., qui ne sont pas résolus. Et donc, comme dit Dawson, on a tendance de traiter ça comme « an anthropomorphized text named Pepys, treated as an encyclopedic impartial early modern guidebook ». Donc, sans parler de l'intention, sans parler vraiment de ce qui est la subjectivité de texte et du point de vue de l'auteur. Donc, en fait, à mon avis, finalement, au lieu de prendre ça comme une donnée et partir de Pepys pour étudier le monde, en fait, il faut partir du monde pour revenir finalement à Pepys, ce qu'on va faire peut-être dans un de ses cours. Mais de toute façon, on sait qu'il y a ce texte-là et on a aussi ce préjugé qui nous dit que, comme je vous ai expliqué, et malgré Marcel Mauss, que l'ego document, l'autobiographie, c'est par essence un produit occidental. Et voilà quelqu'un qui pensait plus ou moins la même chose. Donc Gandhi, qui a écrit un texte autobiographique qui s'appelle en Gujarati Atmakatha, et donc la traduction en français autobiographie ou mes expériences de vérité, et dans lequel il commence dans la préface à dire qu'un ami pieux m'a dit écrire son autobiographie est une coutume typiquement occidentale. Je n'ai jamais entendu dire qu'un oriental y est sacrifié, ou alors ce qu'il était de ceux qui se sont abandonnés à l'influence de l'Occident. Donc, dès que vous écrivez une autobiographie, vous êtes plus authentique. Vous êtes maintenant devenu un vendu à l'Occident. Et donc, vous voyez que Gandhi, qui était quelqu'un qui était très soucieux de son authenticité, il se sent mal à l'aise. Et donc, il a même cette espèce de captatio benevolentiae au départ de son texte pour expliquer pourquoi, en fait, il l'a écrit comme il ne devait pas l'écrire. La question n'a pas été posée, bien sûr, à Gandhi. Est-ce qu'il considérait ça comme un texte indien ou non? Est-ce que Babur ou d'autres Mogols qui ont écrit des textes qui sont bel et bien des textes autobiographiques, est-ce que ça rentre dans le cadre ou est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre? Vous voyez qu'on avait aussi parlé d'un certain nombre d'autres textes du XVIe siècle dans le sillage de Babur. Ça, c'est un texte en turc, mais puis on a aussi ces autres textes qui viennent de la génération d'après, le texte de sa fille écrit en persan, de Gulbadan Begum, et puis on a aussi les textes, un texte écrit par un des serviteurs de son fils, Jauhar Aftabchi, et un autre, un turc qui écrit dans un très très mauvais persan, Bayezid Biat, qui lui aussi a écrit ce Tariq e Humayun, qui fait partie de cet ensemble des textes en première personne du XVIe siècle. Donc vous voyez, ce ne sont pas des gens qui ont écrit sous l'influence de l'Occident. Donc, quoi faire avec? Alors, donc là, juste pour revenir à mon développement de la semaine dernière, vous vous rappelez de ce passage de Mauss, dans lequel Mauss parle de l'Inde, où il a l'air de trouver qu'en fait, il n'y a pas du tout de problème d'imaginer qu'il y a une notion de l'individu, de sa conscience en Inde, même depuis l'époque ancienne. On le sait que Mauss ne s'est pas beaucoup intéressé à l'époque médiévale ou à l'époque moderne en Inde. C'était sa connaissance de l'Inde passait par le sanskrit et passait par l'indologie. Et il avait quand même pas mal de rapports avec des grands indologues de l'époque comme Jules Bloch et autres. Et donc, mais pour lui, déjà à l'époque ancienne, il y avait donc dans la civilisation indienne, c'est le mot qu'il utilise, il y a cette idée, comme il dit, d'ankara, de la fabrication de je et cette notion de moi qui est assez développée. Il parle donc des tensions que pouvaient exister entre différentes écoles philosophiques en Inde. Mais malgré le fait qu'on a parfois tendance à penser qu'en Inde, on avait un peu tendance d'effacer le soi, mais en réalité, il y avait pas mal de positionnements, même dans les textes, disons, plus ou moins centraux, comme le Bhagavad Gita, de revenir sur ce moi. Et je vous ai aussi fait remarquer qu'il y avait donc une réflexion à partir de Mauss, sur cette question-là, ces réflexions de notre collègue de Chicago, Stephen Collins, portant sur l'idée de la personne dans le bouddhisme de l'Asie du Sud, et puis cette autre réflexion de Gavin Flood, comparant l'idée de la personne chez les chrétiens, les hindous et les bouddhistes. Je crois que le livre à gauche est plus réussi que le livre à droite, mais néanmoins, on a cette réflexion qu'on a voulu développer avec un certain succès. Alors, donc, aujourd'hui, je vais procéder en prenant des cas qui sont en dehors de cette tradition indo-musulmane. Parce qu'il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur la tradition indo-musulmane, mais je crois que ça, ce sont deux exercices différents. Et surtout parce que maintenant, ces textes indo-musulmans sont quand même relativement connus, comme le livre de Babur a été traduit maintenant, ça fait au moins 30 ans que ça existe dans cette édition, cette belle édition de l'imprimerie nationale, et la même chose pour ces autres textes. Donc, en fait, je vais me centrer sur quelques autres textes. Et voilà un des textes les plus importants pour cette réflexion. C'est un texte, donc, d'un dénommé Banarasidas, qui a vécu entre 1586 et 1643. Ce texte a été connu depuis très longtemps par les spécialistes de la littérature hindi, car il s'agit d'un texte en hindi, et plus particulièrement dans la version de hindi qui s'appelle normalement Brajbhasha, qui est un hindi dialectal. Il n'y avait pas de traduction en langue occidentale pendant très longtemps, mais finalement, il y a cette traduction à droite qui a été publiée en Inde par quelqu'un, un grand savant, musicologue d'abord, puis il s'est intéressé aussi à un certain nombre d'aspects de l'histoire culturelle, Mukund Lath, et il a publié ce texte en utilisant donc cette traduction, Half a Tale. Et cette première traduction en anglais a vraiment fait date, et c'est extrêmement important, même s'il a été assez libre dans sa façon de traduire. Et il a aussi fait quelque chose, c'est-à-dire il a mis ça dans un langage extrêmement moderne, qui nous parle, donc qui nous rend accessible le texte, mais qui a aussi quelques problèmes. Par exemple, le problème de base, c'est que le texte de Banarasidas, et là vous voyez une traduction en français qui est finalement parue assez récemment par les soins de Jérôme Petit, publié aux presses de Sorbonne Nouvelle. Alors, le problème, c'est que c'est un texte qui est écrit en poésie. Donc, ce n'est pas un texte en prose, tandis que ce que fait Mukund Lath avec, c'est qu'il le traduit en prose. Donc, ça le rend plus comme un texte moderne, parce que vous vous imaginez mal quelqu'un en train d'écrire une autobiographie au XXe siècle qui ferait ça en poésie rimée. C'est, il faut être Nabokov ou Vikram Seth pour le faire. Tandis que ici, on est dans un cadre où il y a ces strophes. Et c'est un texte, donc, bon, je vous donne un petit échantillon pris de la traduction de Jérôme Petit. Donc, voilà, comme quoi il commence. C'est pas le tout début, mais c'est plus ou moins le début. Alors, il nous dit, « Marqué du sceau du nom de lieu de naissance des djinns dépourvus de vêtements », donc ça, c'est une référence au fait qu'il est certain djinna, et il y a dans la tradition djinna des gens qui sont normalement nus. Lui, Banarasi, donc vous voyez, il parle de lui-même ici en troisième personne. Lui, Banarasi, va vous raconter sa propre histoire. Shrimal de religion djinna, de bonne lignée, de nom Banarasi, signe parmi les hommes, il lui vient à l'esprit cette idée. Et là, il passe à la première personne grammaticale, donc on utilise le mot « je », mais le verbe étant conjugué à la première personne. Donc, je voudrais raconter mon histoire bien connue, « Katab Bekhyat ». Donc, apparemment, c'est quelqu'un qui n'est pas connu de nous, mais apparemment, il est relativement connu, au moins dans son milieu. Et c'est quelqu'un qui raconte sa version de sa vie. Et on verra plus tard, c'est parce que c'est une personne controversée. Donc, en fait, il veut établir un peu plus d'ordre dans les versions qu'on donne de sa vie. J'évoquerai les choses importantes, telles que je les ai entendues ou vues de mes yeux. Ça, c'est assez typique dans beaucoup de ces égo-documents. Je dresserai la liste de mes défauts et de mes qualités passées jusqu'au temps présent, ma limite. La situation future, telle qu'elle adviendra, seul l'omniscient en connaît la teneur. C'est pourquoi je raconterai quelque peu sommairement les choses passées telles que je me les remémore. Donc, il dit aussi, pour expliquer, qu'en m'exprimant dans la langue de Madhya Desha, donc ça c'est l'Inde centrale, je vais énoncer ce que je garde en moi en ouvrant mon cœur. Je vais raconter l'aventure des événements du passé. Tends l'oreille, mon ami. Voilà. Donc, il n'a pas voulu traduire ça en strophe rimée, ce qui aurait probablement été un peu difficile en français, mais on a un peu plus d'idées de ce qu'est le texte par rapport au texte de Lattre qui devient une espèce de version en prose. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait qu'il est le fils d'un dénommé Charaxène. Il est né dans la Nuit Nord, près de Benares. Quand il est jeune, il a pas mal de problèmes de santé, etc. Il contracte la variole quand il a 7 ans, mais il va survivre. Puis, à l'âge de 11 ans, il fait son premier mariage. Et par la suite, l'année d'après, lui et les autres jeunes de cet endroit où il habite, qui est Jaunpur, ils ont eu des problèmes avec le gouverneur moghol, qui est un dénommé Khalij Khan Andijani. Et donc, à cause de ces problèmes, il est obligé de s'enfuir. Il va à un autre endroit qui s'appelle Fatehpur. Et puis, il va continuer ses affaires, ses petites affaires de marchand. Alors, dans son texte, il parle souvent du contexte plus large de la vie politique de l'empereur moghol. Il a vécu sous trois empereurs. Donc, il est né quand il y avait sous le règne de l'empereur moghol Akbar, et puis il a passé une grande partie de sa vie sous Jahangir, et il est mort sur Shah Jahan, le bâtisseur de Taj Mahal, si vous voulez. Donc, il a ces trois empereurs, et de temps à autre, il va faire référence au fait qu'il y avait tel et tel empereur. Par exemple, il dit qu'il était très marqué quand l'empereur Akbar est mort, qu'il a ressenti ça presque comme une perte personnelle. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement dans son coin, et ce n'est pas comme s'il n'a pas de connaissance de ce qui se passe dans un cadre politique plus général, mais tout de même, c'est un petit marchand. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des grosses affaires. Ce n'est pas quelqu'un, par exemple, qu'on trouve dans les documents de l'Empire moghol. Jamais il est mentionné dans les documents, pour ne pas parler des chroniques de cœur. Il n'est absolument pas quelqu'un qui n'a pas une importance suffisante. Et ce texte est assez curieux parce qu'il a des registres différents. Il y a des moments quand il parle de ses amantes, sa vie amoureuse, tout en étant marié, bien sûr, à cette femme qu'il a mariée à l'âge de 11 ans. Il parle de sa vie mouvementée du point de vue de la religion, parce que c'est un djinn au départ. Mais il y a des moments quand il rencontre des hommes saints, il est attiré par autre chose. Par exemple, à un moment donné, il est attiré par le shivaïsme et il va faire conversion, il va devenir shivaïte. Et puis, en fait, plus ou moins au moment de la mort d'Akbar, il va redevenir djinn. Donc, lui aussi, il nous parle de ce genre de choses. Donc, ces espèces de va-et-vient, c'est un poète. On a aussi un certain nombre d'autres écrits de lui. Et il nous parle aussi du fait qu'il a écrit des poèmes, y compris des poèmes d'amour, etc. À un moment donné, quand il a cette crise religieuse, il va jeter ses poèmes dans la rivière. Et il a aussi écrit des textes mystiques. Mais surtout, en fait, il est très franc sur un certain nombre de choses. Il est très franc sur le fait qu'il est un très mauvais marchand. Ce n'est pas quelqu'un de compétent du tout. Donc, par exemple, maintes fois, il raconte comment il est ruiné. Il est ruiné parfois parce qu'il choisit des mauvais partenaires. Il est ruiné parce qu'il ne sait pas vraiment... il rentre dans les affaires qui dépassent ses compétences. Par exemple, il rentre dans l'achat et la vente des textiles, et ce n'est pas tellement sa spécialité. Donc, en fait, il y a aussi ce mouvement entre différents partenaires comme Dharam Das et autres, banqueroute, ruine, etc. Mais il y a aussi cette autre chose, c'est-à-dire il se marie une première fois, puis... sa femme va mourir en 1714. Il va donc passer un deuxième mariage. Donc, 8 ans après, la deuxième femme va mourir également. Troisième mariage. C'est vraiment à partir de dans les années 1720 qu'il commence plus à s'orienter vers les aspects mystiques. Et finalement, il va donc rédiger ce Ardha Kathanak. C'est la moitié de sa vie parce qu'un bon djinn est censé vivre 110 ans. Et comme il avait donc, il est arrivé plus ou moins à l'âge de 55 ans, il pensait que c'était à peu près la moitié de sa vie qui était comptée là. Et finalement, il meurt, et un an après sa mort, un de ses disciples, de nom Jagjivan, va donc faire une collection posthume de ses textes sous le titre de Banarsi Vilas. Et d'ailleurs, ce qui démontre que c'était quelqu'un qui était suffisamment bien considéré pour être l'objet d'un exercice de collection comme ça. Alors, à part cette belle traduction, cette tradition très importante de Jérôme Petit, il y a d'ailleurs quelqu'un d'autre qui s'est intéressé dans les derniers temps à la vie de Banarsidas, c'est le savant anglais spécialiste de la littérature hindi, Rupert Snell, et qui lui a insisté beaucoup sur le fait qu'on a une tendance de sous-estimer la finesse et l'intelligence de Banarsidas, et que souvent, surtout dans la critique littéraire hindi, on le traite comme quelqu'un de très simple, presque comme un simplet, je dirais. Tandis que Snell nous démontre que c'est quelqu'un qui a un pouvoir littéraire extrêmement développé, qui a énormément de jeux de mots, qui a beaucoup d'humour, qui est très ironique, qui a des réflexions sur lui-même qui vont donc beaucoup au-delà de ce qu'on attend. Et en fait, à un moment dans une de ses analyses, Snell en fait a pris le soin de traduire une partie du texte de Banarsi en anglais rimé. Et il l'a mis dans une espèce de fonte un peu antique pour faire un peu plus du XVIIe siècle. Mais voilà, par exemple, ce qu'il donne de Banarsidas dans un anglais qui serait plus proche, selon lui, de Hindi de Banarsidas. So now he found he'd lost all he had gained, for not a penny of his wealth remained. Those labors long had lastly led to naught. Two empty hands declared all they had bought. The briny depths he churned to no avail, his only gain a loathsome little snail. Beneath the tree he sat, as in that hangman's farce, whose capital, alack, went up his arse. So just so was our Banarsi's proper fate, once more a pauper, as he had been of late. Et ainsi de suite. Donc vous voyez aussi qu'il y a cet aspect-là qui est un aspect un peu d'humour un peu vulgaire. Voilà, vers la fin du texte, et là je reviens à la traduction de Jérôme Petit, il y a deux passages de teneur très différentes. Donc le premier un peu triste et un peu amer, dans lequel il dit « L'histoire de Banarsi jusqu'à sa 55e année vient d'être racontée. Il a été marié à 3 femmes, à eux 2 filles et 7 garçons. Les 9 enfants sont morts. Il ne reste qu'une épouse. Femme et mari, eux seuls, subsistaient comme tronqués, pareil à un bel arbre qui aurait perdu ses feuilles. » Donc ça, c'est une réflexion un peu triste sur ce qui est devenu de sa vie. Mais quelques strophes avant, voilà, il est en train de raconter un autre moment de sa vie dans lequel il dit « Alors Banarsi lisait constamment, son esprit réfléchissait aux mots et à leur sens. Il ne parvenait pas à saisir l'essence de soi suprême. Il considérait l'acte rituel extérieur comme insignifiant. Le goût du rituel s'était estompé. La saveur de l'âme n'était pas encore présente. Telle était la situation de Banarsi, pareil au pé de chameau. » Mais pourquoi? Parce que le pé de chameau est suspendu en air. C'est ni sur la terre, ni vraiment au ciel. Donc, il est un peu comme ça, uncapade. Donc, c'est une expression vraiment très terre à terre, il faut le dire. Alors, de la même façon, vous voyez, dans ces passages vers la fin du texte, il a ce moment quand il dit « De la même manière que les qualités de Banarsi ont été exposées, je dépeins maintenant la liste des défauts. Peu de colère, d'orgueil et d'illusion, mais une avidité particulière pour la prospérité. Il dit « Se réjouit beaucoup pour un petit gain, se fait beaucoup de soucis pour une petite perte, raconte sans honte ce qui ne doit pas être dit, apprend des arts indécents en y mettant du cœur, raconte ce qui s'est passé à travers des histoires inénarrable, ébauche une danse quand il est seul, profère de mauvaises histoires, ni vues ni entendues, fabriqués de toutes pièces lors des assemblées et plongé dans le rire quand il atteint le bonheur, est incapable de vivre sans mentir. Il est soudain saisi d'une peur profonde pour avoir provoqué une situation si lamentable. Donc, quelqu'un qui a, vous voyez, il manque absolument pas de cette espèce de capacité de réflexion. Je ne vais pas tout de suite vous dire « voilà le Samuel Pepys de la littérature hindi ». Mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si c'est un texte relativement rare, relativement exceptionnel, ça existe. Est-ce qu'il y a d'autres textes de genre ? Je vais vous donner un autre exemple tout de même, toujours du XVIIe siècle. Et ça, c'est un texte qui a beaucoup moins d'humour, mais qui est aussi intéressant parce que c'est écrit par une femme. Donc, c'est une femme qui s'appelle Bahina Bai, qui a vécu dans l'Inde occidentale, XVIIe siècle. C'est une époque très mouvementée. C'est l'époque de l'essor des Marathes, les conflits entre les Marathes et les Moghols. Mais elle parle absolument pas de tout ça. En fait, la vie politique, la situation générale, etc., ne l'intéresse pas. En fait, ce qui la concerne, c'est surtout la vie dans son propre village et les rapports qu'elle a donc, dans son propre village avec un certain nombre de personnes. Donc, c'est une dame qui appartient à une famille brahmane et qui est mariée très, très jeune à un brahman donc, plus âgé. Et son mari, qui a 30 ans de plus qu'elle, elle est mariée quand elle a 3 ans ou 4 ans, et lui, il a 33 ans. Et alors, donc, le mari, il est astrologue de profession. Et aussi, parfois, il travaille comme prêtre dans des temples. Les brahmanes qui travaillent comme des prêtres dans les temples sont normalement déconsidérés. Donc, des grands brahmanes ne font jamais ça. Donc, il dit que son mari, c'est quelqu'un de très, qui est une espèce de brute. Il n'a absolument pas de sympathie pour elle. Il fait sa vie travaillant avec les Védas, mais en fait, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a une vie spirituelle ou des choses comme ça. Elle raconte pas mal de choses, toujours des conflits avec sa femme. Entre la femme et le mari, le fait qu'en fait il la maltraite, elle est battue par lui, elle le dit même ouvertement, et finalement donc elle va pas faire la rébellion, hein, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre d'autres cas de ces espèces de femmes qu'on appelle de la tradition, ça c'est la tradition qu'on appelle de Varkari, mais c'est plus généralement c'est la tradition de la mystique, de ce qu'on appelle le Bhakti en Inde. Et souvent, on a des cas de femmes qui vont donc laisser tomber le mari et s'enfuir de la maison, comme c'est le cas de Mirabai ou autre. Mais dans son cas, elle, c'est une histoire très, très curieuse parce que finalement, elle arrive à transformer le mari. Donc, c'est un peu ça le récit. Le récit, c'est le récit de la transformation du mari, celui qui est très peu porté vers les aspects mystiques, qui est une espèce d'homme très avide, très brutal, etc., et qui finalement va comprendre la vie spirituelle de sa femme et donc être amené vers elle. Donc, des textes assez intéressants. Par exemple, il y a ce moment quand elle dit « Les Védas disent fort et les Puranas crient qu'une femme ne vaut rien de bon. Je suis né avec un corps de femme, comment voulez-vous que j'arrive à mon but ? L'on dit, ces femmes sont stupides, égoïstes, séductrices et décevantes. Tout lien avec une femme mène au mal. Mais Bahina dit, si le corps d'une femme est si nocif, comment dans ce monde puis-je arriver à mon but ? Quel péché ai-je commis dans une vie antérieure quand on m'éloigne ainsi de Dieu ? Mon corps est celui d'un homme, mais avec la forme d'une femme. Est-ce le fruit du péché sans nombre ? Je n'ai pas le droit d'entendre le Veda et le Gayatri Mantra, ce qui est le mantra le plus sacré, et la chasse gardée des Brahmanes. Je ne peux même pas dire « Om », elle n'a pas le droit de dire « Om », ni entendre les noms de mantras. Donc, vous voyez, c'est un texte assez intéressant de plusieurs points de vue-là. Ce n'est pas un récit, disons, aussi subtil que le texte de Banarsi, mais c'est quand même encore un texte. Et je me demande si on commence vraiment à creuser et regarder un peu partout. Là, c'est un texte donc en marathi, tandis que l'autre texte que je vous ai cité, c'est en Brij Bhasha. Et j'imagine qu'on va peut-être finalement arriver à établir un corpus. Alors là, je vais passer à mentionner un certain nombre de rapports entre ces textes-là donc, et la vie de l'Empire moghol. Alors, l'Empire moghol, comme on le sait, a aussi cette tradition de récits autobiographiques. Je vous ai parlé de ces textes écrits par les empereurs, que je ne vais pas traiter aujourd'hui. Et récemment, on a eu quand même quelques tentatives de prendre des textes moins connus, plus obscurs. Je vous mentionne ces deux livres intéressants, le livre de quelqu'un qui a été l'élève de Muzaffar Alam à Chicago, Rajiv Kindra, qui a écrit un livre portant sur un personnage, un brahman, qui s'appelle Chandarbhan, mais qui écrivait en persan. Un brahman qui était plus ou moins associé à la cour moghole, qui écrivait en persan, et donc il essaie de nous de démontrer comment, en fait, ce brahman a une réflexion sur ce qui est travailler tout en étant brahman pour les moghols, et donc aussi ce qui est service, ce qui est loyauté, et ainsi de suite. Ce sont des thèmes qui sont très importants pour lui. Juste à titre d'exemple, il y a cet autre texte du XVIIIe siècle, le texte « L'autobiographie d'un grand poète », plein d'humour, avec en fait d'humour extrêmement obscène d'ailleurs, il faut le dire. Hein. Ce qui est le Mir Taqi Mir qui a écrit ce texte qui s'appelle « Zekre Mir », où il parle de sa propre vie, de sa famille et ses devoirs de poète. Donc, on a ce genre de choses. Et on peut d'ailleurs dresser une liste d'un certain nombre de ces textes méconnus, écrits par des gens extrêmement obscurs, hein, qui ne sont pas du tout ces gens glorieux comme les empereurs ou les gens, les ministres, des gens comme ça, ni même des hauts fonctionnaires, des gens qui sont souvent connus que par le fait qu'ils ont écrit ces textes. Donc, par exemple, ce texte qui s'appelle Baharistan-e-Ghaibi de Mirza Nathan, début du XVIIe, ou le Fateh-e-Ebriya, je vais revenir brièvement sur ce texte de Shihabuddin Talish, et aussi des textes qui sont écrits par des hindous. Des hindous qui vont écrire des textes comme Chandarbhan en persan. Et là, il y a la question qui se pose, et c'est une question intéressante de savoir si on peut imaginer qu'il y a une relation entre ces textes en persan et les textes écrits en langue vernaculaire de l'Inde. Est-ce que, par exemple, quand on écrit un texte comme ça en persan, on a conscience de l'existence de ces autres textes comme le texte de Banarsidas? C'est difficile à prouver, mais il y a quand même parfois des indications. Donc, je vous donne un exemple qui est le texte de Bhimsen. Là, vous voyez, Bhimsen qui est l'auteur de Nuskha Dilkusha. C'est un Saxena. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Inde, ça veut dire qu'il appartient à un sous-caste de ce qu'on appelle les Kayasthas. Hein, que c'est une caste scribale, et donc c'est un Saxena Kayasth de l'Inde du central. Et donc, voilà, c'est plus ou moins le début de son texte. Où il dit, je, Bhimsen, fils de Raghunandan Das et neveu de Bhogandas, qui à l'époque d'Alamgir Pacha Ghazi est reçu le titre de Dhyanat Rai et accédé au Divani, l'intendance, hein, et depuis mon enfance était un ami des Bundela. Les Bundela sont encore une fois un sous-caste des Rajput. En particulier, j'ai accompagné Rao Dalpat Bundela et j'aurai l'occasion par la suite d'écrire sa générosité. Comme il s'avère que maintenant je ne suis plus tellement occupé par les affaires de ce monde et je suis sans emploi particulier, j'avais pensé écrire ce qu'était ma propre expérience, Sarguzasht e Khod, y compris ce que j'ai vu et entendu. Vous voyez, c'est toujours cette phrase qui revient chez Banarsidas, Vadide Oshunide. Depuis le temps que je suis devenu conscient, sans euphémisme ni exagération. Par ces moyens, je me suis occupé. Donc, il y a cette espèce de petit verset. Ma propre expérience, ni plus ni moins, est manifeste par la plume et l'encre sur le visage de ce papier. Quand il est lu, l'ouverture du cœur sera manifeste. Ainsi, l'omniscient scribe du ciel a nommé l'œuvre Dilkusha, ce qui attire le cœur. Et il continue dans un autre passage que je trouve fort intéressant. Maintenant, quelques mots sur ma propre personne. Quand j'avais 2 ans, je parlais des circonstances de ma mort, Halat Maran, dans une vie antérieure. Et il y avait la confirmation en termes concrets de cette chose. Donc, c'est-à-dire, il avait un souvenir de ce qu'était sa vie antérieure et comment, en fait, il a eu une espèce de mort infortunée. Puis, quand j'avais 3 ans, j'ai rapidement oublié tout ça. Aussi, mon père, très inquiet, a essayé par tous les moyens de me faire oublier. Parce qu'il trouvait que c'était peu auspicieux d'avoir ces espèces de souvenirs vagues de sa vie antérieure et des choses mauvaises qui se sont passées. J'ai passé 7 ans de mon enfance à Burhanpur, puis 7 ans dans la ville auspicieuse d'Aurangabad, où j'ai appris à lire et à écrire, et j'ai eu connaissance des règles de comportement dans la compagnie de mes aïeux. Mir Abdul Mahmoud, qui avait le rang officiel de 500, ça c'est dans le système officiel des Moghols, hein, et qui était le daroga de l'arsenal de Topkhane, hein, travaillait ensemble avec mon honorable père, et ils étaient comme des frères. Ils s'occupaient de moi encore plus que ses propres enfants, qu'il s'agisse de mon éducation, de la formation au tir à l'arc, de l'usage des fusils, barkandazi. Il m'a préparé d'une façon méticuleuse. J'ai beaucoup bénéficié grâce à cet homme. Donc, c'est aussi apparemment dans cette espèce de milieu moghol assez typique. On est, comme lui, hindou, on est caste, mais celui qui est votre plus ou moins maître, celui qui va vous former directement, c'est un musulman, ami de votre père. Dans ce milieu, ça se fait. Alors, ces textes-là, écrits notamment par ces hindous, sont remplis de ce genre de références. Je peux revenir sur l'autre texte de Nekrai à un autre moment, qui est un texte qu'il a écrit, une autobiographie qu'il a écrite quand il avait 22 ans. Donc, c'est un peu prématuré, on peut dire. Mais en fait, c'est très intéressant parce qu'à 22 ans, en fait, ce qu'il raconte, c'est son éducation. Il décrit comment il a été formé, ce qu'il a lu, ce qu'il a donc, qui étaient ses maîtres et ainsi de suite. Donc, il nous donne une espèce de fenêtre très intéressante de ce qui est donc la formation, si vous voulez, un peu son Bildungsroman dans un certain point de vue. Et ces textes-là sont assez extraordinaires, beaucoup plus intéressants parfois que les textes écrits par les musulmans travaillant pour l'Empire moghol. Ici, par exemple, le texte de Shihabuddin Talish, musulman travaillant pour l'Empire moghol dans sa frontière orientale. Il dit, voilà pourquoi l'auteur, cette espèce de non-chose, nachiz, insignifiant, ayant fait partie lui-même de ceux qui partagent les travaux de la campagne, c'est une campagne militaire, ayant été l'un de ceux que depuis la frontière d'Assam jusqu'à l'instant où le Nawab partit pour le ciel, furent nuit et jour présents au conseil des chefs, écrivit ces choses. Donc, voilà cette espèce de récit autobiographique, mais beaucoup plus plat, portant beaucoup plus sur la vie publique, les campagnes militaires, etc., etc., beaucoup moins sur ces aspects un peu plus compliqués, un peu plus subtils qu'on peut trouver dans quelqu'un comme Bhimsen ou comme les autres. En fait, si on voulait, on pouvait aller beaucoup plus loin, on pouvait pousser vers d'autres textes encore, ce que je ferai si j'ai le temps à un autre moment, car j'ai aussi beaucoup d'autres choses à traiter et je n'ai pas envie de rester entièrement sur l'Inde dans ce cours. Mais il faut dire quand même que même aujourd'hui, on continue à trouver des textes, hein, des textes totalement inconnus ou très peu connus. Ça, c'est un auteur d'un de ces textes, petit fonctionnaire, Abdul Latif Gujarati, d'ailleurs qui est fonctionnaire mais aussi philologue. Et là, très très récemment, on a finalement trouvé son texte qui avait disparu depuis 50 ans. Et on a retrouvé, pas le manuscrit, mais un microfilm du manuscrit. Donc, cela pour vous dire que, comme je vous ai expliqué aussi, dans le cas de Banarsidas ou dans le cas de Bainabai, notre travail n'est pas encore terminé. Il y aurait encore des choses à dire et à faire en faisant tout simplement un premier travail de collecte de ces matériaux sont intéressants pour nous. Dans ces textes, il y a des thèmes très marqués, des thèmes de service et de loyauté, ce qui est donc ce soit la personne, parce qu'ils sont souvent des bureaucrates ou des fonctionnaires, des petits fonctionnaires, donc ce qui est leur fonction, leur identité dans le cadre d'un empire, un empire qui parfois semble être un peu différent par eux par rapport à sa vision politique et autres. Il y a souvent dans ces textes des réflexions assez intéressantes sur la place de l'islam dans l'empire, et par les musulmans et par les non-musulmans. Par exemple, Abdul Latif est très déçu par le fait qu'il trouve que les empereurs moghols ne soutiennent pas suffisamment l'islam. Et il trouve que les infidèles ont beaucoup trop de présence, beaucoup trop de pouvoir dans cet empire. Mais aussi, parfois, on peut trouver des choses intéressantes. Les réflexions sur l'homme et la nature, par exemple, quand on fait des voyages dans la frontière, dans la forêt, sur le Gange et ainsi de suite. Et donc, ça se mélange entre ces espèces de réflexions plutôt d'ordre particulier et privé et ces autres réflexions beaucoup plus générales de ce qui est d'être un sujet impérial. Donc, encore une fois, il y a des choses à faire et à dire autour de ces questions. Mais donc, pour aujourd'hui, ce que je surtout voulu dire, c'est que donc à partir d'une réflexion comme celle de Jamal Khafadar portant sur l'Empire ottoman, si on revient vers quelque chose comme l'Empire moghol, si on cherche, on trouve des choses intéressantes et ces choses sont extrêmement diverses et représentent des points de vue à la fois et des ancrages culturels, politiques, sociaux et même dans le cas de Bainabai, des réflexions sur les questions de genre qui sont parfois extrêmement intéressant. Je vous remercie.